Bienvenue sur Terre Commune, une émission bimensuelle sur votre radio CFM qui parle de biodiversité, d'écosystèmes et de nature sauvage. Je suis Anthony Villard, animateur et naturaliste de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous nous retrouvons tout le long de l'année afin de parler des écosystèmes qui nous entourent, des espèces animales, parfois végétales, des oiseaux, de lieux secrets qui peuplent encore notre campagne. Toutes ces thématiques autour de la nature sauvage ont pour but de vous faire découvrir et de vous sensibiliser à tous ces êtres vivants avec qui nous partageons notre terre. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand mammifère sauvage terrestre présent dans nos forêts françaises. Je vais vous parler du cerf élaf, Cervus elaphus. Alors, le cerf est un animal emblématique des grands massifs forestiers européens, célèbre pour son brame automnal, de sa puissance, mais aussi de son rôle écologique majeur qu'il joue dans les écosystèmes qu'il emprunte. Alors, le cerf élaf, souvent, est un petit peu mis en avant comme le géant forestier, ce qui est assez drôle avant de pouvoir parler de ses caractéristiques, c'est que on associe le cerf à la forêt, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas son terrain de jeu, ce n'est pas du tout son écosystème, ce n'est pas du tout son biotope. C'est-à-dire qu'en fait, le cerf, la biche, pour sa femelle, sont des animaux qui vivent en plaine, ce sont des animaux qui vivent dans des prairies, qui vivent dans des tourbières, qui vivent dans des espaces dégagés. Sauf, vous l'aurez compris, l'homme l'a poussé à aller se cacher dans la forêt. Sauf que c'est assez contraignant pour le cerf, étant donné que, comme vous le savez peut-être, il a des grands bois sur la tête, et les grands bois sur la tête en pleine forêt, avec toutes les branches et avec les troncs d'arbres, ce n'est vraiment pas évident. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans l'émission. Donc le cerf élaf, donc comme je le disais, le plus grand des cervidés sauvages en France. On va avoir donc le mâle, le cerf, qui va mesurer à peu près 1,50 m au garrot, avec un petit peu plus de 2 mètres de long, grosso modo un gros cheval, quoi. Il va pouvoir aussi peser entre 200 et 250 kg pour les plus gros spécimens. Je m'étais dit que j'allais vous décrire un petit peu les différents stades du cerf et de la biche, en tout cas de comment on les appelle à différents stades de leur évolution, en tout cas de leur vie, étant donné que c'est pas quelque chose qu'on entend assez souvent. Donc je m'étais dit que j'allais vous faire ça. Grosso modo, on a le faon mâle. Le faon mâle, donc c'est le bébé, c'est le jeune. Chez le mâle, il va être, on va l'appeler donc le faon de 0 à 6 mois. Ensuite, toujours pour le mâle, à partir de 6 mois jusqu'à ses 12 mois, nous allons avoir le R. Souvent, on entend cette expression « pauvre R ». Eh bien, le R vient de ça. R-H-E-R-E. Donc, on a donc un jeune cerf pour l'instant, donc de 6 mois à 12 mois. Et ensuite, de 12 mois à 24 mois, nous allons avoir le daguet. Donc là, vraiment très très jeune cerf, avec les premiers bois sur la tête, où il va y avoir justement, donc on l'appelle le daguet, parce qu'on appelle ces bois des dagues sur la tête, puisqu'il est composé juste d'un seul ensemble. Il n'y a pas plusieurs corps qui vont se disperser sur le bois. Et évidemment, donc à partir de 2 ans, quand il commence à y avoir des corps qui vont pousser sur les bois, donc les corps, ce sont ces petits morceaux de cornes, mais ce n'est pas de la corne, qu'on soit d'accord. Les corps, c'est les différents embranchements du bois. Voilà, j'ai réussi à trouver une image. Donc là, à partir de 2 ans jusqu'à une vingtaine d'années pour les plus vieux, 25 ans, on va avoir donc le nom du cerf. Pour les femelles, on va avoir le faon femelle qui va aller de 0 à 12 mois. Une fois que ça va dépasser les 12 mois, donc 12 mois à 24 mois, nous allons avoir la bichette. Et à partir de 2 ans, la biche qui va commencer à pouvoir se reproduire. Donc en fait, on va avoir ces 3 stades-là. Un stade de moins que chez le mâle. Mais en tout cas, ce sont comme ça que sont définis chez ces cervidés-là leur stade évolutif. Donc, comme je l'ai dit, la femelle, on l'appelle la biche. Attention à ne pas confondre les chevrettes, c'est-à-dire les femelles des chevreuils, avec les biches. Les biches sont bien plus grandes, bien plus grosses. Et c'est surtout que par chez nous, en tout cas, l'ouest de l'Aveyron, ça commence à arriver, mais on a quand même très peu de cerfs et très peu de biches. Il y a quelques individus qui commencent à arriver, justement, qui remontent de la forêt de Grésigne qui se trouve dans le Tarn, Tarn et Garonne, et qui commencent à revenir tout doucement, en tout cas à arriver sur notre territoire. On peut en entendre un petit peu sur Mont-Salès, des fois un petit peu sur Villeneuve. On peut en voir et en entendre vers Najac, la gare de Viorre, les hauteurs de Monteil. Enfin voilà, en tout cas des endroits où il y a de la forêt. On commence à les voir arriver. Sans doute, si ils ne sont pas éradiqués avant ça, mais dans une dizaine d'années, il est possible qu'on puisse entendre quand même le brame du cerf autour de chez nous. Donc, ce qui est quand même plutôt sympathique, en tout cas pour les personnes comme moi qui aiment écouter le brame du cerf. Le cerf, je disais, pour revenir un petit peu à ses caractéristiques physiques, donc il possède un corps massif avec de longues pattes puissantes, tellement puissantes qu'il peut lui permettre de faire des grands bonds de bien 2 à 3 mètres de long, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et donc, l'élément spectaculaire chez le cerf, ce sont ces bois qu'il a sur la tête. Je le dis au cas où que vous ne le sachiez pas, mais il y a seulement que les mâles, que les cerfs qui ont des bois sur la tête. Les biches n'ont pas de bois sur la tête. C'est comme ça qu'on peut faire la différence entre le mâle et la femelle en période où les mâles ont leur bois sur la tête. Donc, leurs bois sont composés d'os. Ce sont des os, des excroissances osseuses qui poussent sur leur tête chaque année et qui vont tomber chaque année également. Ce n'est pas du tout comme les cornes de bovins qui, eux, sont en kératine, donc la même composition que nos ongles ou nos cheveux, et qui ne tombent pas. Donc, ces bois, ils sont constitués essentiellement d'os et de plusieurs corps. Je l'ai déjà dit, ce sont les différentes pointes, embranchements que on peut retrouver chez un mâle. Ok ? On a au niveau du bois de cerf, on a une croissance, me semble-t-il, je ne l'ai pas vérifié, mais il faudrait que je le vérifie peut-être, ça serait mieux effectivement, avant de le dire, mais une des plus grandes croissances, en tout cas des croissances les plus rapides chez un animal, en tout cas, ça vient du, enfin, en tout cas, c'est le cerf. C'est-à-dire que les bois qu'il a sur la tête peuvent pousser, une fois qu'ils sont tombés, je vais vous expliquer les périodes de pousse et de tombe, enfin, en tout cas, à quelle période tombent les bois, et à quelle période ils repoussent, mais en tout cas, on a presque 1 cm par jour de croissance, en termes d'excroissance osseuse, justement. Là, on parle du bois. Donc, le bois, lui, il va commencer à... il va commencer à pousser à partir du mois de, on va dire, entre février et avril, puisque c'est entre février et avril que les bois tombent. Donc généralement, lorsque le bois tombe de la tête d'un cerf, il va repousser quelques semaines après, voire même une semaine, c'est assez rapide, pour pouvoir justement se développer tout le printemps, jusqu'à arriver au début de l'été, les cerfs vont justement commencer à faire des frottis, c'est-à-dire frotter leur bois sur les arbres pour pouvoir enlever la peau qui entoure le bois. Parce qu'en réalité, les bois de cerf ne poussent pas juste comme ça, tels qu'on les connaît et tels qu'on peut les trouver dans la nature. Mais on peut, enfin en tout cas, il y a de la peau qui s'appelle du velours tout autour. Cette peau, elle est vascularisée, il y a des vaisseaux sanguins. C'est ce qui va d'ailleurs faire les sillons qu'on peut trouver sur les bois de cerf. Et donc cette peau-là, à un moment donné, quand le bois a fini de pousser, elle est inutile. Donc en début d'été, les cerfs vont se frotter la tête contre, en tout cas les bois, contre des arbres, contre des clôtures pour justement déchirer cette peau qu'ils vont manger pour la plupart, parce qu'elle est, pleine de vitamines et de minéraux, et donc mettre leur bois, l'élément os, en tout cas l'os à nu. Et ils vont commencer également à se frotter ces bois contre des arbres pour les aiguiser. En vue, tout le long de l'été, en tout cas ils vont être plutôt tranquilles, en vue de pouvoir justement attaquer la période du rut. Mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc, période du rut passée, on va avoir donc toujours des mâles avec les bois sur leur tête. Ils vont passer l'hiver chacun de leur côté. Les femelles en troupeau, en harde d'un côté. Les mâles, soit des vieux solitaires, peuvent passer l'hiver seuls, mais généralement, les cerfs passent l'hiver ensemble, donc en harde. Pour pouvoir justement, ils deviennent grégaires l'hiver, pour pouvoir se soutenir, pour l'alimentation, pour pouvoir se protéger, et ainsi de suite. Les bois, à quoi ça sert justement ? Donc, on parlait donc qu'ils se les frottaient en prévision du rut. Donc, les bois servent aux affrontements contre les mâles pendant le brame du cerf. Ça permet à l'intimidation justement pour les autres et à la démonstration de sa puissance pour pouvoir attirer les femelles en période du brame. Nous allons pouvoir parler justement de cette période du brame juste après cette chanson Quattro Viento.
Hey familia, el sargento García, entrenamiento, sembrando semillas a los cuatro vientos. Entre el moreno del corazón fino, sabor latino, camino clandestino, el mundo entero mi destino, acariciando la cultura, agarra bien esa cintura, que entrenamiento es la canción, trae fruta madura, años de locura sin cura, pura fe como el aroma del café, y en Colombia, bailando salsa cumbia, todo cambia, solo música y poder, en alegría y con saber, déjate llevar, no hay mucho que entender.
Aquí no van fronteras, un solo corazón. En Monenza son los cueros con sabor. En la selva lo misterio, el mítico color. La leyenda crece y el amor florece. Y en todo el planeta el sonido estremece. Raíces del barrio, sudaca en mi patio. Sembrando esperanza por todo el vecindario.
Siento lo pequeñito que es el ser humano. Siento como yo soy parte del universo. Siento como Yema ya me lleva de la mano. Aunque crucemos en zonas de tormentas, hay que mantener siempre rumbo a la esperanza. Es nuestra fuente, nuestra fuerza. Un canto profundo que viene del alma. Tiene nada me puede parar.
Mi rumbo a los cuatro vientos.
Y voy sembrando semillas a los cuatro vientos.
Mi rumbo a los cuatro vientos.
Oh, ya tú sabes, mi música no tiene fronteras.
Mi rumbo a los cuatro vientos.
Yo soy libre como el fuego, libre como el agua del mar.
Mi rumbo a los cuatro vientos.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur CFM Radio dans l'émission Terre Commune et c'était la chanson, c'était Quattro Viento de Entrenamiento. Mon espagnol est très très loin. Alors nous parlions du Brame du Cerf juste avant cette pause musicale. Justement, on va en parler un petit peu plus. La période du Brame du Cerf, on va la retrouver essentiellement entre septembre et octobre. Suivant les régions, elle peut être soit un petit peu avant, soit un petit peu après, un petit peu entre les deux. C'est un petit peu dépendant aussi de la météo, des chaleurs, en tout cas de voilà. Donc ça va être vraiment dans cette période-là, entre septembre et octobre, essentiellement suivant les régions aussi de France. On va retrouver pendant cette période-là les mâles qui vont entrer en compétition pour justement pouvoir se reproduire avec les femelles, donc avec les biches. Ils vont avoir un cri gluturaux, c'est un cri qu'on peut entendre jusqu'à des kilomètres pour certains cerfs et suivant dans quel endroit ils se trouvent. Ça sert à impressionner les concurrents, à signaler sa présence et à attirer les biches. Les mâles, eux, vont réussir à s'affronter parfois assez violemment pour le coup en s'entrechoquant les bois si la dissuasion du brame n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'un vieux mâle va pouvoir bramer très fort sur sa place de brame, sur l'endroit où il a implanté son territoire, où il a gagné son territoire l'année d'avant, puisque les territoires se jouent chaque année à la période du brame du cerf. Et donc si il a des genoux autour de lui qui ne veulent pas se frotter à lui, ils vont le laisser tranquille. Par contre, parfois, il y en a un qui se sent d'attaque, en tout cas de pouvoir conquérir le territoire. Et donc là, à ce moment-là, il y a affrontement avec ces combats extrêmement physiques où ils vont s'entrechoquer les bois les uns contre les autres. Et même jusqu'à se pousser, se repousser pour pouvoir justement gagner l'endroit. Alors, pendant cette période du brame du cerf, il faut savoir une chose, c'est que les cerfs arrêtent totalement de s'alimenter. Donc là, ils peuvent perdre jusqu'à 30% de leur masse corporelle. Et en plus de ça, c'est la période, généralement, septembre-octobre, où on a l'apparition du champignon l'Amanite tumouche. C'est ce champignon de la famille des amanites avec un chapeau rouge et des points blancs. Pour nous, il est toxique ou en tout cas à forte dose, il peut être très toxique. Mais pour les cerfs, c'est une alimentation qu'ils mangent juste avant justement cette période du brame, voire pendant la période du brame, ils vont manger exclusivement que ça. Sauf que la manite tumouche a un psychotrope, a des molécules psychotropes, et qu'on va retrouver par exemple dans le LSD. Donc en fait, les cerfs, pendant la période du brame, du rut, sont sous LSD. Voilà, ça fait un peu rire, mais c'est surtout un effet qui peut être assez dangereux pour nous les humains, parce que souvent, en tout cas les gens qui ne sont pas forcément au courant vont essayer de se rapprocher le plus possible de cerfs qui sont en train de bramer. Et il peut y avoir des accidents, parce que les cerfs ne nous distinguent plus réellement d'humains, alors que normalement ils ont quand même plutôt peur de nous. Pendant cette période-là, on peut très bien être un poteau, un arbre pour eux, puisqu'ils sont complètement défoncés. Donc, à faire très attention pendant cette période-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le brame d'un cerf, j'ai voulu vous le mettre pour pouvoir justement vous initier à ça. Je vous laisse écouter. Voilà, donc vous venez d'écouter un cerf, ou en tout cas plusieurs cerfs qui étaient en train de bramer, donc vous avez entendu, c'est vraiment un son très guttural, quoi. Enfin, en tout cas, c'est généralement quand on entend le brame du cerf pour la première fois, on se trompe plus une fois qu'on en entend ailleurs, et une autre année. Donc voilà, c'est un chant vraiment, moi, que j'affectionne particulièrement pour la saison également. Justement, sur cette saison-là, c'est le brame, la période de reproduction. Donc, c'est le moment où les cerfs vont se reproduire avec les biches. Il faut savoir que les biches vont être prêtes à se reproduire, vraiment à être fécondes, sur une fourchette d'une journée. Normalement, on dit entre 6 et 8 heures dans une seule journée pendant la période du brame. Donc, c'est quand même très réduit comme fourchette. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à, justement à ce tourisme autour du brame ou pour aller observer les brames, parce que si on a trop de dérangements, eh ben en fait, on peut complètement louper une reproduction autour, autour de ça. Donc vraiment à faire très attention. Ça ne sert absolument à rien de se rapprocher trop près de cerfs. Il vaut mieux utiliser une longue vue. Il vaut mieux utiliser, se mettre dans la vallée d'en face ou pour ceux qui savent vraiment le faire, se poster en affût en pleine forêt, se créer un endroit où les animaux ne peuvent pas nous voir, pas nous sentir et de ne pas les déranger. Attention, parce que j'ai entendu et vu à certains endroits des personnes qui prennent des enceintes pour imiter le brame, pour attirer des cerfs afin de les photographier. Non, 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 pas bien ça, pas bien, pas bien. C'est d'ailleurs même totalement interdit. Donc il faut faire vraiment très attention à ce genre de choses-là, voire même les exclure. Et si vous êtes témoin de ce genre de choses-là, c'est aussi sensibiliser les gens à leur dire d'arrêter. Donc voilà pour ça. Donc on a cette période de reproduction qui se fait à ce moment-là. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission, on a ensuite, après cette période du brame, les cerfs vont se détendre fortement, ils vont passer leur excitation, la testostérone va s'en aller, on va dire ça un peu comme ça, et ils vont se regrouper en hardes de mâles pour pouvoir passer l'hiver et se protéger les uns les autres. Et c'est pareil pour les biches qui vont se retrouver entre femelles avec les bichettes, donc les jeunes biches, et les jeunes, les fans de l'année et de l'année précédente surtout. Donc elles vont pouvoir se protéger de cette manière-là. Et ensuite, au mois de février, à partir du mois de février, on a les bois sur la tête des cerfs qui vont commencer à tomber jusqu'au mois d'avril et ils vont repousser. Et vous aurez compris que la boucle est bouclée. On pourrait encore en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais vous expliquer tellement de choses sur le cerf. C'est un animal qui est fascinant. Je pourrais vous parler de par exemple, lorsque pendant la période du brame où il se roule dans des souilles, où il aura uriné et éjaculé dedans pour pouvoir sentir le plus fort possible. Je pourrais vous parler, vous montrer comment reconnaître la piste d'un cerf ou d'une biche, voir la différence entre le cerf et la biche. Et tout ça, justement, je vais me faire un petit peu de pub, vous pourrez le retrouver à la fin de l'année, en tout cas en automne, en octobre exactement. J'organise un week-end qui va être plutôt apparenté comme un stage plutôt de pistage animalier et qui va être centré sur le brame du cerf. Je vais organiser ça sur l'Aubrac. Donc je loue un bureau et je propose aux personnes qui souhaitent participer à ce week-end-là de pouvoir sur 3 jours les former au pistage en général, sur les empreintes animales, sur comment se déplacer, comment on va faire pour ne pas déranger la faune sauvage et de pouvoir pister un sanglier, un chevreuil, et comme c'est quand même la période, de pouvoir pister un cerf ou une biche. Jusqu'à potentiellement pouvoir trouver une place de brame pour écouter le brame et pouvoir, si on y arrive et sans déranger évidemment l'animal, pouvoir les observer pendant justement les rituels de brame, voire même de reproduction. Si le temps et la météo nous le permet, en plus de ça, je ferai également une initiation à la mycologie, puisque je suis aussi formé sur les champignons et comment les reconnaître et les manger, tout simplement, sans s'intoxiquer, bien évidemment. Donc ce week-end-là se passera du 9 au 11 octobre. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur mon site internet d'ici peu de temps. Et si vous avez la moindre question, que vous entendez cette émission, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail, ou vous pouvez également trouver mon numéro de téléphone sur mon site internet vulgaristerra.fr. Voilà, en tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous remercie fortement pour cette écoute et je vous retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle émission consacrée à la nature sauvage. Je vous souhaite une très bonne journée ensauvagée et à très bientôt. Ciao, bye.